Biologie naturelle, par le père Philippe, à Saint-Joseph, le 20 février 1985.
Nous avions commencé la dernière fois, si vous vous souvenez bien, le jugement de sagesse par rapport à l'omniprésence. C'est-à-dire, dans la lumière de l'omniprésence, comprendre toutes les autres présences. Dans la lumière de l'omniprésence, comprendre que nous ne sommes pas omniprésents. De temps en temps, on peut en avoir le désir. Alors la bilocation ou la trilocation. Mais que nous sommes des êtres localisés. Et cependant, il y a en nous, par l'imagination, par l'intelligence, par la volonté spirituelle, des possibilités de transcender les limites. Alors c'est ça que je vais essayer de voir avec vous. Je ne vais pas reprendre ce que je vous avais donné la dernière fois, et c'est intéressant d'y réfléchir quand même, ces différentes modalités de la présence. Puis c'est un grand thème de philosophie moderne, vous savez bien, ceux qui aiment la présence, Lavelle, c'était la présence, la présence de l'être. Quand ça a apparu, ça a fait fureur. On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, c'est complètement dépassé, mais c'est toujours intéressant quand même, s'il y a quelque chose d'intéressant. La présence, Gabriel Marcel, la présence, puisque toute la philosophie de Gabriel Marcel, c'est dans l'absence la présence. Vous savez bien, celui qui est absent, que nous recherchons à travers tout. Et on retrouve ça du reste chez Sartre, d'une autre manière tout à fait différente, parce qu'entre Gabriel Marcel et Sartre, il y a un abîme. Hein. C'est peut-être les deux philosophes les plus extrêmes, les plus lointains. Les fureurs de Gabriel Marcel quand il savait que Sartre était parti au Japon avant lui et que lui venait l'année suivante, je me souviens. J'avais rencontré une fois Gabriel Marcel, je connaissais bien, je l'aimais bien du reste, et sa fureur. Et puis il est passé au Japon avant moi. Alors après, je crois que je montre que Sartre ne représente absolument pas le philosophe. Et il pensait, je ne l'ai pas vu au retour de son voyage là-bas, je l'ai vu avant, c'était peut-être mieux. Alors comprenons si vous voulez ce que représente cette présence d'immensité, et dans la lumière de la présence d'immensité, parce que c'est toujours le jugement de sagesse se fait à partir d'une contemplation d'une manière d'exister de Dieu. Or Dieu existe comme l'omniprésent. Cherchez pas à imaginer. Alors ça devient l'immensité. Alors c'est Dieu qui est immense et qui porte tout dans son sein. Alors ça devient quelque chose d'affolant. Vous savez, c'est ce que dit Tertullien un peu imaginativement, mais d'une façon symbolique assez belle. Dieu est comme une mère qui ne dépose jamais son fardeau. Et c'est ça l'omniprésence. Dieu est comme une mère qui ne dépose jamais son fardeau. Il porte sa créature. Il la porte en lui, il n'y a pas d'extériorité par rapport à Dieu. Alors nous pensons toujours intérieur et extérieur. Nous avons une vision politique, il n'y a pas d'extériorité à Dieu. C'est fou du reste, ça. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Et Dieu veut qu'il y ait quelque chose en lui qui ne soit pas lui, l'acte créateur. Et tout repose sur l'acte créateur, du reste. C'est normal, toujours le jugement de sagesse repose sur la création. C'est l'acte créateur de Dieu qui fait que l'homme, l'âme humaine, l'homme, parce que c'est ça qui nous intéresse en premier lieu, parce que le phénomène de la présence existe-t-il chez l'animal ? Quand une araignée rencontre une autre araignée, vous avez remarqué ça, vous savez, le cheminement des araignées, hein, c'est très intéressant à voir, parce qu'elles se suivent, hein, comme des moutons de panurge, n'est-ce pas? Et alors quand une autre araignée rencontre une autre araignée, la rencontre, la présence, je ne sais pas ce qu'elles se disent, mais toujours est-il que je crois que la présence est un phénomène typiquement humain. Je ne crois pas qu'il y ait une présence au sens fort, en dehors de l'homme. Parce que la présence implique justement le point de vue de la conscience, implique le point de vue de la connaissance. Dieu créateur est présent à l'homme, à l'univers, à tout ce qui est, tout ce qui existe. Il est présent parce qu'il est le créateur. Le fondement de la présence, de l'omniprésence, n'est-ce pas ? Le fondement de la présence, c'est l'acte créateur de Dieu. Puisque la présence, c'est une relation dont le fondement est l'action. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on agit sur lui. Et dans la mesure où on pâtit, alors on est présent. Il y a action et passion dans tout acte de présence. Donc le fondement de cette relation particulière qui est la présence, c'est l'action et la passion. Quand il s'agit de Dieu, l'action de Dieu comme créateur implique le don de laisser. Le don de l'être. Dieu donne l'être, donne l'exister à partir de rien. Donc c'est un don absolu, parce que l'exister, il n'est pas réfugié, si vous voulez, dans la fine pointe de mon intelligence ou dans la fine pointe de mon cœur. L'exister est présent à tout mon être, puisque l'exister, c'est l'acte d'être. Donc c'est ce qu'il y a d'ultime en moi. Et donc l'acte créateur de Dieu qui regarde l'essai, le don de l'essai, à partir de rien, puisque l'essai est donné à partir de rien. C'est très difficile à préciser. Hein. Ce n'est pas la forme. Saint Thomas de temps en temps dira que l'essai c'est la forme des formes, pour bien nous faire comprendre justement qu'on est au-delà de la forme. Le don du Créateur, c'est donc de donner l'essai, c'est le don de l'essai à partir de rien. C'est un pur don. Parce que c'est un pur don, il n'y a pas de limite à la présence de Dieu en moi. En tant que je suis une créature, il n'y a pas de limite. Vous voyez, l'action de quelqu'un sur un autre, l'action d'un professeur sur l'intelligence de son étudiant, est une action qui est limitée à tous les a priori de l'étudiant. Quand l'étudiant a des a priori, par le fait même, l'action du professeur sur lui est limitée. Chasse gardée. Nos a priori, c'est chasse gardée. Ah, vous n'entrerez pas dans ce domaine-là, ça, non, 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 non. Alors, par le fait même, l'action est limitée. Si vous n'avez pas d'a priori et que vous êtes dans une attitude d'attente, tabula rasa, hein, vous êtes dans une attitude d'attente de la vérité, de la recherche de la vérité. Alors à ce moment-là, l'action peut aller beaucoup plus loin, parce qu'il n'y a pas de limite. Mais il y a toujours quand même une limite, puisque le professeur parle à une intelligence qui n'est pas la sienne. L'intelligence de celui qui écoute n'étant pas l'intelligence de celui qui parle et de celui qui enseigne, nécessairement, ce qui sera communiqué sera reçu dans une autre intelligence. Et parce que c'est reçu dans une autre intelligence, c'est limité. Et donc, l'action est partielle. Et c'est ce que les philosophes essaient de dire, que là, il y a une action intentionnelle. Que le vieux professeur, Perdo, me racontait toujours une expérience qu'il avait comme étudiant, disons, quand ça venait particulièrement dur, les étudiants avaient de la peine à écouter, alors le professeur s'arrêtait. Il disait, que voulez-vous? Je peux bien vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence. Alors, c'est pas étonnant, vous ne comprenez pas. On voit très très bien ça. C'est la limite, on peut communiquer l'intelligible. Et on communique l'intelligible. C'est pour ça que la parole vivante nous aidera toujours mieux à comprendre que la parole écrite. C'est que c'est si difficile, les philosophes qui sont morts, de bien les comprendre. Il y a 36 interprétations. Même si on a tout lu. Parce que le livre, l'œuvre, n'est pas adéquat à l'intelligence de celui qui l'a écrit. C'est un tout petit bout. L'intelligence qui l'a écrit est source. Tandis que quand on peut dialoguer avec quelqu'un, on va beaucoup plus loin. Parce qu'on est en présence de la source. Et alors on a une parole vivante. Et la parole vivante, c'est celle qui est unie à la source. Tandis qu'au contraire, l'écrit est toujours une parole morte. Elle est figée. Et c'est pour ça qu'elle exige des interprétations différentes. Vous voyez ? Une parole vivante n'a pas besoin d'herméneutique. Une parole morte a besoin d'herméneutique. Réfléchissez bien là-dessus. Ça va très loin. On reviendra là-dessus au cours de théologie fondamentale. Parce que ça, c'est quelque chose de très très important à saisir. Bon, alors, l'acte créateur de Dieu donne l'essai. Alors que, par l'enseignement, je donne l'intelligible. C'est très loin de l'essai, l'intelligible. Puisque l'intelligible, c'est quelque chose qui existe dans l'intelligence de quelqu'un. Mais qui ne peut exister que dans l'intelligence. Ça n'existe pas par soi. C'est toujours relatif à autre chose. Par l'amour, je communique encore l'intentionnalité. Quand j'aime quelqu'un, je ne peux pas lui donner l'essai. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. C'est un don d'être, encore un don au point de vue de l'intentionnalité. L'amour humain demeure intentionnel. C'est la grande souffrance de celui qui aime. Parce qu'il voudrait que son don soit substantiel. Et le don n'est jamais substantiel, selon les conditionnements humains. Et donc la présence demeure toujours une présence intentionnelle. Alors qu'on voudrait une présence réelle. Alors, comprenons, parce que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important à nous à saisir et à contempler du reste, c'est un objet de contemplation, c'est un jugement de sagesse qui va très loin ça. De saisir que l'acte créateur de Dieu nous touche dans ce qu'il y a de plus actuel en nous, de plus fondamental et d'ultime, l'alpha et l'oméga. Le don de l'essai, c'est l'alpha et l'oméga. Pour nous, ce qui est le plus fondamental, puisque seule la substance existe. Et l'exister est ultime dans toutes nos activités. Donc le don de Dieu, l'acte créateur de Dieu, nous atteint dans ce qu'il y a de premier, de fondamental et d'ultime. Donc il nous étreint. Il nous étreint totalement. Il nous saisit totalement dans tout notre être. Sans faire nombre. Puisqu'il est source. L'acte créateur est source. Et donc cet essai, il est participé. Et parce qu'il est participé, il est totalement relatif à la source. Et la source pénètre, imbibitur, c'est l'expression que prend Jean de Saint-Thomas. Et je l'aime bien parce que ça exprime bien la chose. Imbibitur. C'est ce que les mystiques parleront de l'éponge dans la mer. Et l'éponge dans la mer est entièrement imprégnée de l'eau. Et ce sont des images. Parce que quand on dit « imbibitur » et quand on dit « l'éponge », c'est encore une image, encore une extériorité entre l'éponge et l'eau. Tandis que là, il n'y a plus d'extériorité. Donc il faut dépasser ce point de vue de l'extériorité pour comprendre que Dieu, créateur, est source de ce don plénier et total de notre être. Et notre être est totalement relatif à Dieu. Entièrement relatif. Dans tout ce qu'il est, il est relatif à Dieu. Et donc la présence de Dieu sur nous est une présence qui nous porte, est une présence qui nous atteint substantiellement, pas seulement, pas intentionnellement, mais substantiellement. C'est la seule présence substantielle. Au point de vue philosophique, hein, parce que vous direz qu'il y a une autre présence substantielle qui est l'Eucharistie. Ça, c'est l'ordre surnaturel. Et c'est une présence substantielle. Et c'est par là que je peux expliquer la présence substantielle. La dernière explication de la présence substantielle, c'est la présence d'immensité. La toute-puissance de Dieu est engagée dans le mystère de l'Eucharistie. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter, et que l'Église n'accepte pas, qu'on remplace transsubstantiation par transfinalité, par transobjectivité, transsignification. L'Église veut qu'on maintienne le terme transsubstantiation pour montrer qu'il s'agit d'une présence substantielle. Or, la première présence substantielle que je peux saisir, philosophiquement, je peux contempler ça. C'est peut-être l'ultime contemplation du point de vue philosophique. Contempler cette dépendance radicale de tout mon être par rapport à l'action créatrice de Dieu. Donc, une dépendance substantielle, l'alpha, une dépendance ultime. Donc, immédiate, ajoutons. C'est une présence immédiate. Dieu ne peut pas se servir d'intermédiaire. Dieu ne peut pas se servir d'instrument quand il crée. Donc, c'est une présence immédiate de substance à substance. Et c'est une présence immédiate. Si Dieu servait d'un instrument, il n'y a rien d'intermédiaire. Dieu ne peut pas se servir d'un instrument. L'humanité sainte du Christ n'est pas un instrument de la création. L'humanité sainte du Christ est un instrument de la recréation, donc de l'ordre de la grâce, mais pas du don de l'essai. Le don de l'essai est tellement fondamental et premier qu'il est à partir de rien. Et donc, Dieu ne peut pas se servir d'instrument en créant. Et c'est pour ça que cette présence est une présence immédiate, imbibitur. Donc, de substance à substance, immédiate, totale, absolue. Elle étreint tout ce que nous sommes. Et nous ne faisons pas nombre avec Dieu. Donc, il n'y a pas de frontière. Du côté de Dieu, Dieu se communique par l'acte créateur. Il communique l'être. Et je dis bien, faisons attention, il communique l'essai, l'être. L'être vient de Dieu. Dieu est source de tout être. Mais Dieu n'est pas l'être, il est Dieu. Très important de comprendre la petite différence entre les deux. Parce qu'autrement, vous ne comprendriez plus comment Dieu peut, au-delà de l'être, communiquer sa propre nature. L'acte créateur de Dieu, source de tout essai, de tout être. Vous voyez, cette expression que saint Thomas emploie et qu'il aime d'employer, quand il dit que dans l'acte créateur, Dieu est fonce, totius esse. Il est la source radicale de tout essai. Je crois qu'on ne peut pas traduire autrement. Fonce, totius esse. Il est la source radicale de tout essai. Tout essai vient de lui. Mais lui, il est l'ipsum esse subsistens. C'est-à-dire, il est l'exister pleinement pur qui est au-delà de tout exister. Et donc, il y a quelque chose en Dieu qui ne peut pas être participé, c'est Dieu. L'essai vient de Dieu, mais n'est pas Dieu. La créature n'est pas sacrée. Autrement, on aurait la vache sacrée.
Vous voyez, c'est l'erreur de l'ontologisme et du panthéisme, hein. C'est de confondre l'essai avec Dieu. Parce que ça vient de Dieu, c'est très vrai que ça vient de Dieu. Dieu est source de tout essai. Mais l'essai n'est pas divin. L'essai qui est communiqué à l'homme, il est créé. Et Dieu est au-delà de la création, puisque la création est libre. C'est un acte libre. C'est un acte d'artiste. C'est vrai. C'est une liberté. Donc Dieu n'est pas l'essai. Dieu pense toute la création. Mais l'essai n'est pas Dieu. Ce sera dans l'ordre surnaturel, on peut le dire tout de suite, dans l'ordre surnaturel, ou alors on aura Dieu en tant qu'il est celui qui est le Père, en tant qu'il est l'époux, il nous donne son amour. Son amour, c'est sa propre nature. L'acte créateur implique bien l'amour, mais l'amour de Dieu créateur, tandis que dans l'ordre surnaturel, Dieu communique sa propre nature, ce qu'il est. La grâce est divine, elle est sacrée. L'essai n'est pas sacré, n'est pas divin. Il est créé. Très très important à comprendre ça, parce que c'est une des confusions qui existe très très souvent dans la théologie moderne, parce qu'elle est à base d'ontologisme. L'ontologisme a joué un très très grand rôle, et dans l'ontologisme on ne peut plus faire la distinction entre le point de vue de l'essai et de la grâce. Dans l'ontologisme vu de façon plénière, c'est-à-dire l'ontologisme à la manière de Hegel, dans l'hegelianisme, vous ne pouvez plus faire la distinction entre l'essai et la grâce. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous servir de l'hegelianisme pour faire une nouvelle théologie. Parce que la dialectique implique justement la confusion entre l'intentionnalité et l'être. Et s'il y a la confusion entre l'intentionnalité et l'être, on ne peut plus distinguer le point de vue de l'essai et de la grâce. Mais au terme de la philosophie hegelienne, l'homme est Dieu. Alors, ce n'est pas au niveau de l'essai qu'on va trouver le sacré dans l'homme. Le sacré dans l'homme, c'est en tant que l'homme est à l'image de Dieu. Ce n'est pas en tant qu'il est une créature. Distinguons bien les deux. Il y a dans l'homme quelque chose de sacré, c'est son intelligence. Par où il est à l'image de Dieu? C'est par son intelligence, ce n'est pas par son être. C'est par son intelligence qu'il y a quelque chose de sacré en lui. C'est par son cœur, c'est par sa volonté qu'il y a quelque chose de sacré en lui. Par où il peut remonter jusqu'à Dieu. Mais dans la dépendance fondamentale de son être, par où Dieu est intimement présent à son être comme créateur, la créature qui est l'homme n'est pas sacrée. Faisons attention, hein. Faisons grande attention quand je dis ça. Il faut bien préciser, hein, c'est du côté de la communication d'essai. Dès que je suis du côté de la vie, je dois dire que la vie de l'homme est sacrée. Ça, c'est très important. Je me souviens avec le professeur Marois, les grosses disputes qu'on avait là-dessus. Alors, il n'arrivait pas à comprendre que l'essai de l'homme, comme créature, n'était pas du sacré. Dis attention, la vie, oui, en tant que biologiste, je comprends très bien, la vie de l'homme est sacrée. Alors, il a été à Genève, et puis, en revenant, il m'a dit, il y a un pasteur qui a réagi exactement comme vous, quand j'ai dit que l'être de l'homme était sacré. Il m'a dit, ah pardon, c'était un calviniste, hein, donc il connaissait assez bien sa théologie. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous devez dire que la vie de l'homme est sacrée. Parce que si l'essai était sacré, toute créature serait sacrée. Donc, la vache serait sacrée. Mais si l'essai était sacré, il n'est pas. Il est créé. qui dit créer, je dis justement radicalement dépendant. J'insiste sur ces petites distinctions parce que c'est très très important de bien saisir cela dans un regard contemplatif, de bien voir ce qui est de sacré dans l'homme et ce qui est limité, radicalement limité. Parce que le sacré s'ouvre à l'infini, tandis qu'au contraire, l'essai, en tant qu'il est l'essai, il est limité. Bon, alors, c'est l'homme, en tant qu'il est l'image de Dieu, qui est ouvert à l'infini, et qui peut remonter jusqu'à Dieu. C'est, l'image de Dieu, c'est le côté spirituel de l'homme, c'est pas son existence. Donc cette présence d'immensité qui fait que l'homme ne fait pas nombre avec Dieu, du côté de son essai. Mon essai ne fait pas nombre avec Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que l'image de l'éponge dans l'océan est encore grossière. Elle suggère. Mais il faut aller plus loin du côté de l'intelligence et comprendre que l'essai de l'homme ne fait pas nombre avec le Créateur. Et donc, imbibitur. Hein. Alors, le imbibitur montre comment on est imprégné de l'essai de Dieu. On est porté par l'essai de Dieu, tout en étant distinct de Dieu. On est une créature distincte de Dieu. De notre côté, il y a une séparation de nous et de Dieu. Et du côté de Dieu, il n'y a pas de séparation. C'est ça qu'il faut saisir, cette relation non mutuelle de la créature au créateur et du créateur à la créature. Alors, à partir de là, à partir de cette contemplation de la présence d'immensité de Dieu, je peux tout de suite comprendre toutes les autres présences dans cette lumière. En comprenant que c'est la seule présence substantielle. Et on comprend qu'il y a comme une nostalgie pour l'homme en tant qu'image de Dieu, capable de penser et de contempler cette présence d'immensité, de comprendre que l'homme a cette nostalgie par son intelligence et par sa volonté. Il a cette nostalgie de cette présence d'immensité, d'être comme un petit Dieu, à l'égard évidemment de ceux que nous aimons et que nous connaissons. Il faut reconnaître qu'il y a un abîme entre les deux. Et cet abîme, c'est que ici je suis en présence d'une présence d'intentionnalité. Quasi infinie, elle est infinie, la présence d'intentionnalité est infinie. Tandis que là, je suis en face d'une présence substantielle, mais au-delà de la présence substantielle, parce que c'est une présence d'essai, et que l'essai est au-delà de la substance. C'est une présence dans l'ordre de l'être. Tandis qu'au contraire, toutes les autres présences, au point de vue humain, sont des présences d'intentionnalité. Quand je pense à quelqu'un, ben, il m'est présent. Quand j'aime quelqu'un, il m'est présent. Mais c'est une présence d'intentionnalité. Et c'est pour ça que cette présence d'intentionnalité implique une limite, parce que ce n'est pas une présence réelle. Mais la présence réelle n'est pas absolue, puisque elle implique une juxtaposition. L'ami est à côté de moi. Je peux le toucher, il est à côté de moi. Il y a une extériorité. Et cette extériorité est quelque chose qui vient limiter la présence, alors que du côté de l'intentionnalité, on l'enveloppe et on le porte. Alors il y a les deux toujours, vous voyez, et c'est ce qui exprime cette espèce de du côté métaphysique, si vous voulez, du côté contemplatif, le côté de la limite de toute présence humaine. Et que seule la présence d'immensité de Dieu peut alors apaiser. Parce qu'autrement, il y a une espèce de tragique hein, dans la présence. Le drame de Nietzsche. Toute la philosophie de Nietzsche est une présence, c'est une philosophie du drame. C'est justement que l'intentionnalité et la présence réelle ne sont pas identiques. Il y a quelque chose d'infini du côté de l'intentionnalité et il y a une limite du côté physique. Et cette limite du côté physique, alors, met l'extériorité par rapport à l'intentionnalité. L'intentionnalité a quelque chose d'infini et donc elle est à l'image de la présence d'immensité, mais elle demeure intentionnelle. Ce n'est pas parce que je connais quelqu'un que je le change et que je le porte. Je le porte intentionnellement. Ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un que je le transforme. Je le porte dans mon amour. Il est présent dans mon amour. Et cette présence d'intentionnalité demande d'être complétée par la présence réelle, mais cette présence réelle demeure limitée et extérieure. Parce que je ne peux pas compénétrer un autre être. Une créature, à l'égard d'une autre créature, demeure extérieure. Cette extériorité qui provient de la matière. Cette extériorité que je dépasse par l'intentionnalité, mais qui ne peut pas être totalement dépassée. Je peux alors, en passant dans l'ordre surnaturel, comprendre dans la lumière même de cette présence d'immensité, la présence particulière de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, je suis en présence d'une intentionnalité divine qu'on appelle la sacramentalité. Alors, cette présence divine, cette intentionnalité divine, surnaturel devient substantiel. Alors c'est le physique qui est absorbé par l'intentionnalité divine de la sacramentalité. Je ne peux pas le savoir, hein. J'emploie une analogie, l'analogie de l'intentionnalité. Oui. Cette intentionnalité divine et le physique ou le biologique qui est de l'ordre de l'existant et qui est substantiel, demeure toujours distinct. Il y a comme un dépassement au niveau sacramentalité, au niveau divin, au niveau de la grâce, un dépassement de cette distinction qui fait que l'intentionnalité divine dans la sacramentalité est capable d'assumer ou d'être, c'est plus juste, d'être une présence substantielle. Et ceci en vue de comprendre la présence portée par la présence d'immensité et en vue de comprendre cette autre présence qui sera la présence du face-à-face dans la béatitude. Qui sera une présence divine, donc qui sera analogue à la présence qui existe dans la très sainte Trinité entre le Père et le Fils et l'Esprit-Saint. Parce que ça, c'est la présence la plus intime qui soit dans la plus grande diversité, la plus grande unité. Eh bien, le face-à-face nous fera vivre cette présence, participer à cette présence divine de la présence de la très sainte Trinité. Et la présence de l'Eucharistie est une attente de cela. C'est un signe efficace de la présence éternelle que nous aurons dans la vision béatifique. Donc vous voyez, si j'essaie de comprendre un peu au point de vue théologique, je vois comment la présence de Jésus dans l'Eucharistie présuppose la présence d'immensité et est finalisée par la présence de la vision béatifique. Donc elle est entre les deux. Ce qui est tout à fait normal, puisque c'est par rapport à nous. Nous sommes des viators, donc nous sommes des créatures, et nous sommes appelés à la vision béatifique. Et l'Eucharistie est là comme une médiation entre les deux. Et donc cette présence ne peut être saisie pleinement qu'en regardant la présence d'immensité et la présence du face-à-face dans la vision béatifique. Donc voilà au point de vue des présences. Hein. Présence d'immensité fonde toute toutes les autres présences. Parce que l'essai fonde, la communication de l'essai fonde toutes les autres présences. Précisons encore, dans la lumière de l'omniprésence, comprenons que la créature, que l'homme, est nécessairement localisé. Alors, je reviens sur ce que j'avais souligné tout à l'heure. L'homme, image de Dieu, inclut des limites à cause de son corps, à cause de sa nature humaine. Implique des limites par rapport à toute autre créature. Je suis limité et je suis dans un état d'extériorité. Toute créature, par rapport à une autre créature, est extérieure. C'est ce qu'on appelle le fait de pouvoir être localisé. Ce n'est pas l'espace, hein. Il serait très intéressant de voir le passage du lieu à l'espace, hein. Ce que Descartes a fait, ce que Kant a continué. Ici, nous sommes dans une philosophie réaliste et nous ne parlons pas d'espace, nous parlons de lieu, parce que l'espace n'est pas directement lié à l'existence, c'est un conditionnement de notre manière de penser. Nous pensons toujours par le point de vue de l'espace, c'est l'imaginaire, hein. Il y a un imaginaire qui touche quelque chose de réel, mais ce n'est pas directement la réalité existante. Tandis que le lieu nous fait comprendre la limite de notre exister. Nous sommes des êtres limités dans notre existence, et c'est pour ça que nous sommes localisés. Et nous sommes localisés en ce sens que Dieu seul est au-delà de tous les lieux, il est omniprésent. Alors, puisqu'il est au-delà de tous les lieux, il nous porte, et en dernier lieu, c'est lui qui fonde le point de vue du lieu, dans un jugement de sagesse. Je peux parler du lieu, d'un corps, au niveau purement philosophique, mais je peux avoir ce jugement de sagesse de comprendre que toute créature est localisée, donc elle est extérieure à une autre, elle est influencée par une autre. Alors il y a des lieux qui sont bons et des lieux qui sont mauvais. Il y a des lieux qui détériorisent et des lieux qui au contraire finalisent. Ça c'est la grande théorie du lieu. Alors les lieux qui finalisent, c'est toujours être unis à une réalité supérieure à nous. Et vous comprenez que pour l'homme, ce n'est pas commode, hein ? Parce que qu'est-ce qui est supérieur à l'homme dans notre monde physique ? Il n'y a rien. C'est l'homme qui est la créature la plus parfaite. Donc il est le lieu suprême du monde physique, au point de vue philosophique. Or, un autre homme ne peut pas être le lieu d'un autre homme, puisqu'il n'est pas supérieur au point de vue de la nature. Il faudrait des surhommes pour être le lieu de l'homme. Or, l'homme, tel qu'il est créé, il a la même nature que moi. Donc, s'il a la même nature que moi, il ne peut pas être mon lieu. La mère est le lieu de l'enfant. Parce qu'il est enfant, et elle est le lieu momentané de l'enfant. Quand l'enfant naît, la mère n'est plus son lieu, sauf quand il y a des retours au berceau, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, il y a des retours au berceau, et on veut retourner avec une nostalgie à ce moment merveilleux où on n'avait aucune responsabilité et on était porté. Cette espèce de nostalgie souterraine, fondamentale qu'il y a dans le cœur de l'homme. D'être dans un lieu où il est protégé. Le lieu maternel est un lieu extraordinaire de protection. Merveilleux. Et là, il y a toujours un peu ces nostalgies. parce qu'on n'a pas assumé sa naissance. Pas commode d'assumer sa naissance, parce qu'on n'était pas conscient. Alors on peut l'assumer que progressivement, et on l'assume toujours de plus en plus. On ne l'a jamais totalement assumé. Je crois qu'on l'assumera pleinement au moment de la mort. Très curieux, ça. Ça, c'est la question du lieu, vous voyez. Alors ça doit être dans l'éclairage de l'omniprésence de Dieu. Et dans l'éclairage de l'omniprésence de Dieu, nous voyons bien que nous avons besoin d'un lieu. Or, nous sommes projetés dans l'univers sans lieu. Un animal, il a un lieu, l'homme. C'est pour ça que l'animal aime d'être un animal domestique. Il a un lieu, grâce à l'homme. L'homme, il se fabrique de faux lieux, des habitats, des maisons. Mais je ne peux pas dire que ce lieu dans lequel je vis, c'est mon lieu philosophique. Non, je m'en sers comme d'un instrument contre le froid et contre le chaud. Et donc, pour pouvoir vivre et dormir, je m'en sers. Ce n'est pas mon lieu naturel. Quel est mon lieu naturel ? Quel est mon lieu naturel ? Je dois me poser la question dans la lumière de l'omniprésence de Dieu. Est-ce que l'homme est-il la seule créature physique qui n'a pas de lieu ? Alors ça expliquerait le drame de l'homme qui est comme un orphelin. Dans l'ordre physique, quel est son lieu ? Le lieu, au point de vue physique, c'est une créature supérieure. Y a-t-il une créature supérieure à l'homme ? Non, je n'en connais aucune, et vous non plus. Les Martiens. Il n'y a pas de créature supérieure, donc il n'y a pas de lieu naturel. Alors, s'il n'y a pas de lieu naturel, le seul lieu naturel, ce sera l'omniprésence. Et l'omniprésence, je la saisis par l'adoration, par l'attitude religieuse. C'est très curieux, ça. Alors, je crois, vous voyez, si on poussait un tout petit peu, parce qu'il faut essayer de comprendre ça, c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Vous voyez ce télescopage. Si j'essaie de comprendre, la nature humaine, et je prends bien la nature humaine, donc l'homme individuellement, a-t-il une créature physique qui lui est supérieure ? Le lieu, c'est ce qui enveloppe. Pour les anciens, pour Aristote, le monde céleste avait la quintessence, et donc était supérieur à l'homme. Et donc l'homme avait un lieu naturel. Nous ne pouvons plus accepter cette théorie d'Aristote. Et donc, nous devons reconnaître que le corps de l'homme est supérieur à tous les autres corps. Et donc, que la nature humaine, appliquant le mal du corps, parce qu'il s'agit du lieu, c'est le corps, il n'y a pas de réalité supérieure, immédiatement supérieure. Je n'en vois pas. Donc, je suis un orphelin dans ce monde. Puisque je n'ai pas de lieu. Je crée des habitats, c'est évident, je crée des habitats, mais créer des habitats, je sais très bien que ce n'est pas un lieu naturel, c'est un lieu artificiel. Je n'ai pas de terrier. Très ennuyeux. Le fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Hein. Ça va très loin, le fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Il n'a pas de lieu naturel. Donc s'il n'a pas de lieu naturel, il est un errant. Il est un orphelin. Parce que le lieu est toujours maternel. Alors, il a un lieu au niveau de l'origine. Il ne peut pas retourner dans sa maternelle. Sauf en nostalgie. Alors, quel est le lieu qui finalise ? Il n'y en a pas. Il y a donc uniquement l'homme. Alors, est-ce que ce n'est pas le seul moment où on est obligé de tout de suite atteint ce qui est d'ultime, sans saisir de lieu propre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le lieu ultime, l'omniprésent, c'est Dieu qui me porte. Je suis donc porté par Dieu, je ne suis pas orphelin quand je découvre Dieu. Mais tant que je n'ai pas découvert Dieu, je suis orphelin. Parce qu'il n'y a pas de lieu naturel. Un lieu propre, immédiatement supérieur au corps humain, n'existe pas. Donc, il n'y a pas de lieu propre, il n'y a pas de causalité exemplaire propre. Je suis obligé de tout de suite et de rejoindre l'omniprésence. Là, vous voyez comment l'ontologisme est vrai au niveau du lieu. Il faut toujours, dans tous les systèmes, chercher ce qu'il y a de vrai, le moment où c'est vrai, puisqu'il y a toujours une petite parcelle de vérité. Alors, dans l'ordre du lieu, la philosophie du lieu, l'ontologisme est vrai. Je ne peux me reposer que dans l'omniprésence de Dieu. Je ne peux me reposer que dans les mains de Dieu, les mains du Créateur. Alors là, je vois que je ne suis pas orphelin. Mais en dehors des mains du Créateur, il n'y a pas de lieu naturel. Vous voyez ça, je crois que c'est le regard, réfléchissez bien, c'est le regard de sagesse dans la lumière de l'omniprésence de Dieu. Ça a beaucoup de conséquences. Parce que je crois que ça explique le tragique de Nietzsche. Ça explique ça. Et ça explique le tragique que nous portons en nous. Ne pas avoir de lieu. Le lieu propre, c'est le lieu de la détente. On peut se reposer, se détendre. L'animal, quand il est dans son lieu, il se détend. Alors nous, on se détend dans un habitat qui est à peu près conforme à nous, n'est-ce pas? Quand on a sa petite maison, alors on se détend près du feu, c'est merveilleux, c'est artificiel. C'est pas naturel, c'est artificiel, c'est momentané. Pourquoi on aime tellement d'être auprès du feu, se détendre, c'est merveilleux comme image. C'est le feu, vous voyez? Parce que le feu, d'une certaine manière, est le lieu du monde physique, mais pas du corps humain. Parce que le corps humain a autre chose que le monde physique. Il est habité par l'esprit. Alors parce qu'il est habité par l'esprit, il est à lui-même son propre lieu. Et il ne peut découvrir qu'un dépassement dans l'omniprésence.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre